Vous écoutez Voix au chapitre, dirigé par Anne Le Pape, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 9 juin 2021 de 10h30 à 11h30 et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver et je suis ravie d'avoir la grande joie de recevoir, le grand honneur de recevoir Philippe Berthier, qui a quitté sa Bourgogne, je crois, c'est
oui,
cela,
tout à fait.
Pour venir vous parler de son dernier ouvrage, Amitié d'écrivain, entre gens du métier, paru chez Honoré Champion. C'est un ouvrage, vous allez le sentir, j'espère, qui m'a enthousiasmée. Et je vais essayer de vous donner envie de découvrir ce livre qui fait beaucoup de bien et qui est passionnant. Alors, Philippe Berthier, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, je vous situe un petit peu et vous compléterez, si vous le voulez. Vous êtes agrégé de lettres classiques, vous avez eu l'agrégation dans les tout premiers rangs en 1963.
C'est de l'histoire ancienne.
Vous ne l'auriez pas dit, donc je me fais une joie de le dire. En 1975, vous avez soutenu une thèse de doctorat sur Barbey d'Aurevilly et l'imagination.
Oui.
Vous êtes professeur, vous avez été professeur de littérature française à l'Université de Lyon, à Grenoble, ce qui explique sans doute votre goût pour Stendhal.
Ce serait plutôt le contraire, c'est mon goût pour Stendhal
qui
explique ma venue à Grenoble.
Bon. Merci de remettre les choses dans le bon sens. Et vous avez été professeur à la Sorbonne Nouvelle à Paris. Vous êtes donc professeur émérite désormais, mais vous n'avez pas quitté vos amours littéraires, vous vous y consacrez donc beaucoup. Je répète que cet ouvrage est vraiment très enthousiasmant. Déjà, c'est une attitude originale. Il est de bon ton, désormais, peut-être même, n'est-ce pas très nouveau, de critiquer au sens péjoratif du terme. Quand on parle des auteurs, les critiques littéraires font remarquer les mauvais côtés, souvent, insistent sur les faiblesses, etc. Ça n'est pas du tout votre démarche.
Non, d'autre part, je ne tiens pas spécialement à monter en épingle une prétendue exemplarité et à présenter des couples idéaux, des saints de l'amitié. Je me suis attaché à des cas qui m'ont paru, pour certains, assez emblématiques, tous différents, tous nuancés, mais qui avaient quelque chose en commun, c'est qu'un pacte avait été conclu entre deux écrivains, et ce pacte s'est vécu quelquefois tout au long de l'existence, quelquefois pendant quelques années seulement, avant que le travail du temps, avant que des malentendus, voire des brouilles retentissantes n'interviennent. Et donc j'ai voulu essayer faire une sorte d'étude de cas sur des liens d'amitié entre écrivains, étant entendu qu'il y a une vieille tradition ou un vieux préjugé qui prétend que les écrivains se détestent encore plus entre eux que les autres catégorie de la population.
Oui, ils ont la dent dure. Oui.
Voilà. Déjà, le poète latin Horace disait que les poètes étaient un genus irritabile, une race quinteuse. Bon, alors, il semblerait que dans le microcosme littéraire, les haines recuites, les jalousies, les mesquineries, les crocs en jambes soient, dit-on, encore plus monnaie courante que dans le clergé où ça abonde, dans l'armée ou n'importe quel milieu professionnel. Donc c'est vrai que j'ai voulu montrer qu'il y avait au moins des possibilités que certains liens s'établissent et même deviennent quelquefois tout à fait, on peut dire un terme un peu absurde, structurant d'une existence. Il y a vraiment des existences qui se sont organisées au autour d'un échange épistolaire presque quotidien. Si on pense par exemple aux 15 années pendant lesquelles Jacques Chardon et Paul Morand se sont écrits absolument tous les jours. Ce sont des milliers de lettres. Mais ça peut prendre aussi une toute autre forme. Par exemple, si on regarde le couple, entre guillemets, on ne peut plus taiseux, formé par Albert Camus et René Char, le volume de leur échange épistolaire est tout à fait mince. On dirait un poème de Char. C'est vraiment d'un laconisme extrême. Mais c'est tout porte, tout est essentiel, et ça n'en est pas moins passionnant. Donc j'ai voulu faire un échantillonnage aussi varié que possible dans le 19e et dans le 20e siècle.
Oui, nous partons avec Chateaubriand et Joubert et nous allons jusqu'à Chardon et Morand que vous venez justement d'évoquer. Je ne peux pas m'empêcher de citer, quand vous parlez de la férocité entre écrivains, la phrase de Maurras dans Le Monde Saturne, « La littérature ajoute à la férocité naturelle des hommes
». Bon, Maurras en savait sans doute quelque chose à ses dépens, peut-être.
Donc vous avez, je précise bien aux auditeurs que vous avez un regard bienveillant, mais qui n'est pas naïf.
Ah non, parce que je ne veux absolument pas arranger, broder, idéaliser, occulter des aspects beaucoup moins positifs et lumineux et montrer qu'il peut y avoir évidemment, il y a assez souvent des causes plus ou moins insidieuses de désaccords, mais j'essaie évidemment de montrer les ombres et les lumières avec autant d'honnêteté et de justesse que possible.
Alors, comment avez-vous travaillé ? Vous dites que vous avez travaillé à partir de la correspondance. Est-ce que vous avez réussi à trouver toujours assez dans vos... Non, oui, puisque vous étudiez ces cas, c'est parce que vous avez réussi à trouver assez de correspondances. Vous êtes allé en bibliothèque, j'imagine, pour cela.
Bien entendu, et puis j'ai fait... Ces correspondances sont toutes publiées. Qu'on n'espère pas trouver dans mon volume des scoops avec des inédits. Hélas, il n'y en a pas.
Il y en a tout de même, parce que nous n'avons pas l'habitude de lire la correspondance in extenso de tous les écrivains que vous citez, et vous avez pris évidemment le meilleur.
Alors, bien entendu, elle n'est pas d'ailleurs toujours en extenso. Par exemple, pour revenir à Chardon et Morand, nous attendons toujours un volume qui est annoncé mais qui n'est pas encore paru, donc j'ai travaillé sur les volumes disponibles, donc c'est un peu incomplet, bien sûr. Mais j'ai travaillé sur la correspondance parce qu'il m'a semblé que c'était un lieu, un champ tout à fait stratégique pour surprendre, en déshabiller un échange entre les échange entre écrivains, entre ce que j'ai appelé ces gens du métier, qui de quoi parlent-ils et à quoi s'intéressent-ils ? Ben, uniquement à ce qu'ils écrivent. Ils s'écrivent sans cesse et de manière infinie et indéfinie. On écrit, voilà, c'est leur unique sujet.
Comment écrire,
voilà, comment écrire, pourquoi écrire, qu'écrire, etc. Et on met en commun ces interrogations, ces perplexités, ces drames, ces pannes, enfin, et ces moments d'enthousiasme, et puis en essayant de comprendre, évidemment, et de partager au mieux ce que fait l'autre, évidemment. Et le cas, évidemment, le plus connu, dont je ne pouvais pas faire l'économie, c'est sûrement pas le chapitre le plus original de mon enquête, c'est évidemment la correspondance entre Georges Sand et Flaubert.
Ah oui, mais voilà, c'est passionnant.
Qui est unanimement reconnue comme une des plus belles qui soit, et un chef-d'œuvre absolu, et qui permet d'étudier in vivo vraiment comment des personnes qui sont aux antipodes l'une de l'autre par leurs pratiques, leurs conceptions, leurs idées, etc., peuvent nouer un lien absolument inoxydable, infrangible, indestructible jusqu'au dernier jour. Au-delà des abîmes, des gouffres qui les séparent, il y a cette passerelle fragile de la lettre qui n'est pas quotidienne mais qui est très fréquente, et on est d'accord sur rien, mais on s'aime et on se comprend. Je trouve quand même que c'est... En effet, ça fait du bien.
Et vous les avez d'ailleurs vous les avez nommés les patrons au sens chrétien du terme de l'amitié en littérature.
Alors ça, je crois,
ils le méritent.
C'est un des si on avait les lettres de La Boétie à Montaigne, peut-être on pourrait trouver d'autres patrons. Mais voilà, c'est un monologue puisque nous n'avons pas la correspondance de Montaigne avec La Boétie. Donc il nous reste Flaubert et Georges Sand, et c'est admirable, absolument magnifique. Et si je pouvais n'avoir donné que l'envie de découvrir cette correspondance qui est vraiment sans pareil, c'est une leçon d'humanité incomparable. Et alors, il faudrait peut-être dire que la différence d'âge entre les correspondants joue un rôle absolument essentiel. Georges Sand avait 17 ans de plus que Flaubert. Elle aurait pu presque être sa mère. D'ailleurs, au moment où elle est morte, Flaubert a écrit au fils de Georges Sand: j'ai l'impression d'avoir perdu une seconde fois ma propre mère. Donc, il y a ce lien d'aînés qui autorise beaucoup de choses et qui fait que, aussi, c'est la seule femme. Un ami m'a reproché dans ce livre de n'avoir pas respecté la sacro-sainte parité. Il m'a dit, il n'y a que des hommes. Bon, alors, je n'aurais pas mieux souhaité que d'avoir davantage de femmes, mais je dois dire que dans les correspondances littéraires, je n'en ai pas trouvé. Ou alors, j'aurais pu prendre Flaubert et Louise Collet, mais alors franchement,
oui, mais il y
non,
avait d'autres...
parce que non. Alors, Louise Collet, c'est vraiment le bas bleu à prétention, et j'étais très content que Flaubert se soit brouillé inexpiablement avec elle. Bon, mais donc, la différence d'âge, c'est très très important. Par exemple, Stendhal et Mérimée. Stendhal a 20 ans de plus que Mérimée. Et pourtant, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que le jeune homme immédiatement s'adresse de père à compagnon à son aîné. Il n'est pas du tout dans la posture du disciple ébloui qui vient cirer ses chaussures et qui se met à plat ventre devant lui, comme Proust, par exemple,
devant Montesquieu.
Parce que c'est intéressé, évidemment. Oui. Donc, il manie la brosse à reluire avec une intempérance absolument vertigineuse. Mais donc, la différence d'âge est très importante. En revanche, alors, il y a quelques cas vraiment remarquables où elle n'existe pas, où cette amitié s'enracine dans les années de lycée. Par exemple, Alain Fournier et Jacques Rivière se rencontrent au lycée Lacanale. André Gide et Pierre-Louis se rencontrent à l'école alsacienne. C'est des amitiés d'adolescence avec le côté passionné et absolu qu'ont ces attachements. Il y va de tout. Deux jeunes gens qui sont passionnés par la littérature et qui... également épris de poésie, de musique, d'art, etc., conclut une alliance très exigeante de tout partager, de ne rien se passer, de s'autoriser mutuellement aucune médiocrité pour viser d'emblée au plus haut. Et on peut dire que si entre Pierre-Louis et Gide, ça n'a pas tourné bien, par exemple, quand on voit Alain Fournier et Jacques Rivière, même si quand l'un des deux s'est marié avec la sœur, quand le second s'est marié avec la sœur du premier, on aurait pu croire
que ça allait les rapprocher encore plus, et malheureusement non.
Oui. Eh bien, l'amitié à trois, c'est comme l'amour à trois, c'est très compliqué, très difficile. Mais on peut dire quand même que pour l'essentiel, ce lien, même si sur la fin il s'est un peu détérioré, a magnifiquement tenu. Et puis après la mort d'Alain Fournier, Jacques Rivière a payé sa dette de façon inoubliable.
Alors Philippe Berthier, vous avez donc travaillé à partir des correspondances, mais n'y a-t-il pas des cas où les amis sont si proches qu'ils se voient très souvent, quasiment tous les jours, et donc ils ne s'écrivent pas?
Mais ça, c'est certain. Il y a des trous. Quand les correspondants se rejoignent géographiquement, évidemment, ils se rencontrent, ils n'éprouvent plus le besoin de s'écrire. Là, il faut l'accepter. On en est réduit aux conjectures et on maudit ce rapprochement qui devait les enchanter, eux. Mais bien sûr, ça, c'est la fatalité. La correspondance suppose en général qu'on n'est pas dans le même lieu. Bon, donc voilà, elle est censée suppléer au manque de proximité physique. Bon, alors là, il faut accepter, c'est une lacune évidemment, et on peut imaginer qu'il y a de splendides amitiés littéraires dont nous ne saurons jamais rien parce que qui s'engloutissent dans l'informulé, puisque aucun témoignage ne nous en demeure.
Voilà. Oui, vous donnez par exemple le cas de Cocteau et Max Jacob, qui à certains moments ne s'écrivaient pas,
oui,
puisqu'ils se voyaient très souvent.
Quand Max Jacob quitte son abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire et revient à Paris, évidemment, la correspondance s'interrompt. Et on ne peut que, évidemment, que le regretter. Quand il décide de retourner dans son abbaye, à ce moment-là, la correspondance reprend. Et donc, à nouveau, on a quelque chose.
Et on peut imaginer que dans le futur, ou même dans l'avenir, il y aura beaucoup moins d'éléments que trouveront vos collègues critiques littéraires, puisque les gens s'écrivent de moins en moins.
Alors évidemment, c'est-à-dire on s'écrit, d'abord la correspondance sur papier a pratiquement disparu, c'est-à-dire un problème économique pour la poste, parce que Chardon et Morand ont engraissé les services postaux. Bon, ils auraient dû avoir un tarif préférentiel vu l'intensité de leur commerce. Mais donc les lettres sur papier ont disparu pratiquement, donc on s'écrit par mail. Donc c'est un question qui peut être intéressante. Est-ce qu'il va y avoir de belles correspondances par mail? Est-ce que les écrivains archivent leur correspondance, avec l'idée de derrière la tête quand même qu'après eux, ça sera peut-être bien de le ressortir. Donc, on ne sait pas. Ça prendra en tout cas une autre forme. Parce que certains optimistes diront qu'on ne s'est jamais autant écrit qu'aujourd'hui.
Oui, mais prend-on la même peine à écrire un courriel qu'une lettre manuscrite? Je n'en suis pas sûre. Mais bon, ça c'est un autre thème. En tout cas, je signale aux auditeurs qui pourraient être impressionnés par votre titre de professeur que votre livre se lit absolument, vraiment avec grand plaisir et grande facilité. Il est bourré d'anecdotes et vous donnez l'impression... Enfin, j'ai pensé à Verlaine. Il n'y a jamais rien qui pèse ou qui pose.
Vous êtes trop gentil.
vous donnez une impression de familiarité avec les auteurs que vous évoquez qui m'a rappelé une impression d'enfance quand j'ai lu Émile Faguet. En marge des vieux livres. Donc lui évoquait des classiques, mais imaginait à partir de ce qu'il connaissait dans les œuvres. Tandis que vous n'imaginez pas, vous avez trouvé réellement des éléments intangibles, donc c'est beaucoup plus intéressant.
C'est-à-dire j'ai essayé d'être vivant le plus possible. Évidemment, il s'agit de mettre en scène un lien puissant, un lien presque charnel, un lien d'affection, un investissement de l'esprit et aussi du cœur. Et donc ça engage toute la personnalité. Donc ce ne sont pas des enjeux abstraits. Il y a naturellement, on a n'arrête pas de se demander qu'est-ce que... Si on prend par exemple, j'ai un seul cas de triolisme, si j'ose, si j'ose dire, entre Gilles, Pierre-Louis et Valérie, qui s'est assez vite déséquilibré d'ailleurs et fracassé. Mais enfin, il y a eu quand même un moment où il y a eu une triphonie tout à fait étonnante. Alors, on essaye de voir en quoi... il s'agit de personnes, d'un lien vraiment de personne à personne. Et dans les lettres, on se montre au naturel. On ne pose pas devant l'ami. Bon, on se montre tout nu, on se montre tel qu'on est, avec ses faiblesses, avec ses défaillances. Quelqu'un m'a fait remarquer que j'avais manqué de défiance. Parce que c'est que la lettre, ça peut être aussi un lieu de mensonge et de dissimulation. Que ce n'est pas forcément là où on s'avoue le plus et le mieux. Mais j'ai quand même fait ce pari. J'ai pensé que dans les lettres, tout ça, en tout cas dans celles que j'avais choisies venant de ces correspondants d'élite, la lettre était un moyen, un médium d'authenticité.
Oui, et dans ces cas-là, le journal n'est pas non plus fiable, puisque l'écrivain a derrière la tête le fait qu'un jour, peut-être, il sera publié. Donc, on peut avoir la même méfiance vis-à-vis des journaux.
Bien sûr. Et ça, alors, on entre dans, dans l'inconnaissable. Comment doser, comment mesurer la part de calcul, d'idées derrière la tête, c'est impossible à savoir.
Mais j'aime beaucoup les... Vous avez un sens de la formule, Philippe Berthier, qui me ravit et qui ravira tous les auditeurs qui se procureront votre livre. Je vois mon cher Chateaubriand, par exemple, qui oscille entre la cellule et la scène.
Alors ça, c'est pas de moi. En fait, c'est de Mathieu Mollet qui disait qu'il avait défini Chateaubriand. Mollet, qui connaissait à fond Chateaubriand de très près, il dit c'est une cellule. Il est dans une cellule sur un théâtre. Donc j'ai démarqué une formule que je rends à son propriétaire.
Mais vous avez aussi parlé de lui en disant qu'il était devenu au fil du temps le professionnel absolu de la désolation. Ça c'est de vous.
Oui, peut-être. Mais enfin, c'est...
Et puis, Max Jacob, dont la foi flirte avec la mauvaise foi, mais vous signalez qu'il n'y a jamais d'hypocrisie chez lui.
Ah non. C'est ça. Et tous les gens qui ont connu Max Jacob sont unanimes pour dire qu'il y avait chez lui quelque chose de franciscain, quelque chose d'innocent. Dieu sait que sa vie n'était pas édifiante. Bon, il me l'est... ses mœurs l'amenaient à des comportements qu'il était le premier à regretter amèrement. Il était ensuite dans l'expiation et il avait la conscience bourrelée, mais bon, il savait ce que c'était que le péché. Oui. Mais en même temps, il y avait chez lui ce merveilleux appel à l'innocence et cette merveilleuse pureté dans l'impur. Mais il y avait une pureté qui ne s'avouait jamais vaincue. Et ça, c'est très touchant.
J'ai relevé aussi... Quand vous évoquez Gide, puisque nous en sommes sur ses mœurs, qui découvre tardivement sa nature sexuelle à Biskra, où Wilde lui sert de rabatteur, et vous citez, entre guillemets, ce que les très pédagogues, mais peu pédérastes, Lagarde et Michard appellent euphémiquement les ardentes surprises des oasis.
Voilà. Alors, oui, quand j'ai enseigné très peu, mais un petit peu dans le secondaire, et naturellement, je me servais des manuels de Lagarde et Michard, qui étaient notre bréviaire à l'époque. Et j'ai recueilli cette expression qui m'a beaucoup amusé en me demandant ce qu'un élève de première pouvait comprendre, surtout à l'époque, qui était beaucoup moins libérée que la nôtre, qu'est-ce que ça pouvait bien être que les ardentes surprises des oasis. Accueillait des dates, enfin, je ne sais pas.
Ça m'a fait beaucoup rire. Donc, vous avez effectué votre choix selon la correspondance que vous pouviez trouver ou selon les auteurs dont vous aviez envie de parler, ou comment avez-vous effectué votre choix ?
Écoutez, j'ai fait des sondages, et puis évidemment, bon, il y a une part de goût personnel, tous ces écrivains. Bon, il y en avait d'abord que j'avais envie de connaître davantage. Par exemple, quand j'ai vu qu'on publiait la correspondance André Breton et Benjamin Perret, je n'en savais absolument rien. Je connaissais très mal Benjamin Perret. Donc j'y suis allé voir, et ce qui m'a intéressé, ce qui m'a décidé à la sélectionner, c'est pour essayer de corriger une certaine image d'André Breton, que je partageais comme tout le monde, c'est-à-dire quelqu'un de lui aussi jupitérien, fulminant l'anathème, maniant l'excommunication à tour de bras, etc.
Ce qui doit être un petit peu justifié.
C'est un aspect vrai. En tout cas, très autoritaire, très, très imbu de sa prééminence et assez pète sec. Et là, avec Benjamin Perret, j'ai découvert un André Breton de tendresse, ce qui m'a, je dois dire, tout à fait surpris. Là, c'est un cas vraiment d'une amitié qui ne s'est jamais, jamais, jamais affaiblie, ni encore moins démentie, et qui, jusqu'à la fin, a gardé le même ton et la même intensité. Benjamin Perret, de toute la bande surréaliste, était un des plus radicaux. Travail, famille, patrie, pour lui, c'était l'horreur absolue. Il a gardé toujours l'invective à la bouche. Il ne s'est jamais calmé, il ne s'est jamais affadi. Il n'a jamais mis d'eau dans son vin très très rouge. Et bon, on peut admirer, même si on ne partage pas du tout cet engagement, on peut admirer cette fidélité à soi. Et il y a à cette fidélité à soi, a correspondu de la part de Breton, une sorte de complicité jamais remise en question, parce que Breton admirait, chez son disciple plus jeune, admirait justement cette capacité de se maintenir au maximum de la revendication sans jamais en prendre son parti, du monde comme il va, sans jamais faire la moindre concession. Et alors, j'ai trouvé beau aussi les efforts qu'ils ont faits l'un et l'autre, chacun de son côté, lui, Perret au Mexique où il était réfugié, Breton à New York où il était réfugié aussi, pour essayer de rassembler les membres et parts de la diaspora surréaliste pendant la guerre. Bon, c'est assez touchant de voir qu'ils essaient de sauver encore ce qui peut l'être d'un mouvement qui semble aller évidemment à volo. Donc ça m'a intéressé. Et leur correspondance est une des plus affectueuses qui soit, vraiment. Et ça, de la part de Breton, je dois avouer que, peut-être victime de préjugés, je ne l'attendais pas.
Écoutez, moi, c'est un chapitre qui m'a permis de découvrir complètement deux écrivains que je ne connais pas. Donc. Mais vous arrivez à rendre intéressants même les chapitres évoquant des écrivains qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on n'aime pas forcément.
Si ça pouvait donner envie d'aller y voir, voilà.
Voilà. Mais en fait, vous faites mentir l'adage qui s'assemble, se ressemble, puisque vous montrez que la plupart du temps, ce sont des tempéraments extrêmement différents qui s'allient de cette façon.
Bien sûr, alors soit que ce soit des tempéraments depuis toujours, des natures, on pourrait dire, par exemple, Sand qui fait dans la consolation et Flaubert qui fait dans la désolation. Bon,
Sand qui met son cœur dans son œuvre, ce qui est une horreur
pour
Flaubert.
Oui, et puis alors aussi une conception de la littérature aux opposés. Sand qui, enfin, je n'en revenais pas, j'ai édité les contes d'une grand-mère de Georges Sand, qui m'a amené à consulter ses carnets. Et dans ses carnets, elle indique qu'elle termine un roman à minuit et qu'elle commence le suivant à 1h du matin. Bon, si Flaubert avait vu ça, mais enfin, il le savait, il serait tombé à la renverse. Lui dont la grossesse durait au minimum 5 ans et qui était capable de rester une semaine sur une phrase. Donc, qui voulait que, évidemment, la forme fût parfaite, alors que la forme, ça allait, Georges Sand écrivait à la diable, c'était pas pour elle du tout l'important. Et ce qu'il y a de très sympathique, c'est qu'elle le savait. Elle le savait. Et elle l'acceptait. Elle savait très bien que sur un certain plan, elle était nulle par rapport à l'exigence de perfection formelle de Flaubert. Bon, alors, il y a ces différences-là, puis il y a aussi le fait qu'au fil du temps, les chemins bifurquent. Le cas typique, par exemple, c'est Zola et Huysmans, dont le jeune Huysmans, qui vraiment donnait tout à fait du côté du naturalisme, de Médan, etc., qui est un disciple extrêmement ardent et dynamique, etc. Et puis qui, au bout d'un moment, prend conscience d'une impasse. Et avec À rebours, en 1884, Zola l'a immédiatement compris. Nous avons le récit d'une promenade dans le jardin de Médan où Zola dit tout ce qu'il a sur le cœur, vide son sac à Huysmans en lui disant que son livre fera beaucoup de mal au naturalisme, qu'il n'est plus du tout dans la ligne, etc. Mais ce qu'il y a de beau aussi chez Zola, tout est en nuance, c'est qu'il ne lui a jamais voulu. Son indépendance, en quelque sorte. Il l'a vu peu à peu s'éloigner. Au bout d'un moment, il n'avait absolument plus rien à se dire. C'était plus une amitié Potemkine, une façade. Derrière, il n'y avait absolument plus rien. Et quand Huysmans... on peut se demander ce que Zola pensait des livres que Huysmans continuait à lui envoyer sur le cycle de Durtal, la conversion, les séjours à la trappe, etc. Bon, il n'habitait plus du tout la même planète. Et pourtant, jusqu'au bout, il n'y a jamais eu rupture. Il y a eu quelque chose qui... je ne dirais pas que ce qui les unissait était plus fort que ce qui les divisait, parce que ça n'était plus vrai, mais quelque chose avait eu lieu, ils avaient la religion de l'amitié passée. Et donc ça, c'est beau.
Oui, c'est beau, le lien est resté, voilà. Même ténu, le lien est resté.
Comme entre Vigny et Hugo, par exemple.
Oh, vous citez des phrases de Vigny sur Hugo.
Oui, mais quand même assez... c'était in petto. Enfin, elle n'était pas destinée à être, à être connue. C'était dans le secret du laboratoire. Mmh. Voilà. Mais bon, quelque chose... C'est où Flaubert et Maxime Ducamp, qui finalement vont vers des horizons diamétralement opposés. Mais... ils ont vécu quelque chose de si fort.
Ah, par les champs et par les grèves.
Oui, et puis leur voyage en Orient aussi.
Oui, mais le par les champs et par les grèves me touche plus.
Oui, je vous comprends tout à fait. Eh bien, qu'on ne peut pas faire comme si cela n'avait pas été. Oui. Et donc, on le respecte. Et bien qu'on ait beaucoup de choses à se reprocher mutuellement et plus grand-chose à échanger... quelque chose reste quand même, et ça je me suis plu à l'analyser.
Mais vraiment, ce qui frappe, c'est cette différence de tempérament entre des écrivains qui nouent une amitié, entre Joubert et Chateaubriand,
des tempéraments totalement différents. Autant Chateaubriand aimait occuper le terrain, était fait pour jouer les premiers rôles dans la littérature, dans la politique, croyait-il, etc. Autant Joubert, c'est une violette donc, qui est tout à fait modeste dans son petit coin. Et il a été attiré, justement, comme c'est un phénomène de tropisme, il a été attiré par son contraire, évidemment. Mmh. Donc, il s'est épanoui à son contact, tout en restant fondamentalement incapable de faire une œuvre. Enfin, on peut discuter, y a-t-il une œuvre de Joubert ? Bon, oui, évidemment, mais c'est une œuvre qui s'est construite en refusant d'en être une. Donc, c'était son journal, ses pensées qui sont magnifiques. Et donc, il assistait à ce grand opéra qu'était Chateaubriand, médusé, plein d'admiration, en même temps très conscient que lui n'était pas fait pour ça. Et ce qui est beau, c'est que d'un côté et de l'autre, ils se sont appréciés, ils se sont aussi sincèrement aimés, vraiment, vraiment. Et donc, je trouve que, même si on peut estimer qu'après la mort de Joubert, Chateaubriand a fait un peu le service minimum, mais il faut dire qu'il était ministre des Affaires étrangères, il avait beaucoup de travail. Bon, mais enfin, il a été quand même assez économe lorsqu'il a voulu payer son tribut d'amitié après la mort de Joubert, quand même.
Mais vous avez une expression proustienne à propos de Mérimée et Stendhal. Vous dites que Mérimée n'était pas le genre de Stendhal.
Stendhal. Oui, alors,
je ne vais pas choquer un Stendhalien comme vous en disant Stendhal.
Moi aussi, j'ai dit longtemps Stendhal jusqu'au jour où le pape du Stendhalisme, Victor Del Lido, à Grenoble, m'a repris et m'a dit qu'il fallait dire absolument Stendhal et qu'il n'y avait aucun doute là-dessus, car nous possédons une lettre de Stendhal à un de ses amis où il lui dit « Je vais encore vous stendhaliser ». C'est-à-dire qu'il voulait être un scandale et donc... Voilà. Alors, fin de la parenthèse. Oui. Alors, oui et non, parce que il y a quelque chose de commun entre Stendhal et Mérimée. Barbey d'Aurevilly a dit que Mérimée était un Stendhal maigre. Bon, bon, Stendhal avait un bon embonpoint, comme vous savez. Mérimée, c'était plutôt le genre squelettique. Mais on a dit que c'était de sec ou de faux sec, je crois d'ailleurs, beaucoup plus faux sec. Bon, ils avaient une prétention à refuser les trémolos, les dièses, etc. Stendhal disait « je veux mettre aucun dièse à aucun sentiment », donc la nudité de la vérité. Donc et ça c'est à qui reprochait au style académique, emphatique, qui n'avait plus aucune vérité humaine et psychologique, parce que tout était pour faire de l'effet. Donc le refus de l'effet, aussi sur fond de scepticisme et sur fond d'ironie. Mmh. Alors c'est surtout ça.
Vous n'allez pas jusqu'au cynisme.
Non, je ne vais pas jusqu'au cynisme. Je dirais parce que chacun avait son jardin secret. Bon, je connais assez mal Mérimée, mais pour Stendhal, c'est évident. Stendhal était un tendre contrarié. Bon, et il se gendarmait contre lui-même. Il élevait des digues contre ses épanchements. J'ai écrit un livre sur Stendhal et Chateaubriand que j'ai sous-titré Ambiguïté ou les ambiguïtés d'une antipathie. Parce que Chateaubriand a été la tête de Turc de Stendhal qui n'a cessé de dire que c'était un cacographe, qu'il était l'exemple même de la manière dont il ne fallait pas écrire parce qu'il outrait tout. Il a voulu être un anti-Stendhal.
Un
anti-Chateaubriand, pardon. Et en même temps, comme avec Rousseau, il dit « Je détestais l'emphase de Rousseau, mais ces phrases si belles me touchaient malgré moi. »
Voilà.
Voilà. Ou alors, si vous voulez, c'est un peu la même chose dans le domaine religieux. Il veut écraser l'infâme, il passe toute sa vie à démolir le clergé, et quand il vit à Rome, il ne rate pas une cérémonie à Saint-Pierre, pas une procession, pas une grande cérémonie papale, parce qu'il dit « J'ai toujours été profondément ému par les cérémonies religieuses. » Voilà, mécréant total, profondément ému par les cérémonies religieuses, ennemi de l'emphase qui ne peut s'empêcher de vibrer parce qu'il a en lui un vibrato qu'il veut tenir en lisière parce que s'il s'abandonnait, il sait très bien, Jules Coup, il pourrait aller et il se le reprocherait. Donc, Mérimée Stendhal, oui, proche et différent. Simplement, alors, ce qui a été la pomme de discorde entre eux, c'était la pédanterie. Stendhal surnommait Mérimée Academus ou bien Mr. Pedantry. il trouvait qu'il abusait de sa science immense dans l'architecture, par exemple. Et quand il a voulu faire les mémoires d'un touriste, voyage en France, il a pris des leçons. Il était bien content d'avoir près de lui un jeune ami qui pouvait lui expliquer les différences entre les ogives, l'art roman, l'art gothique. Ils sont allés à Notre-Dame, ils sont allés à Saint-Germain-des-Prés. Sandal dit, avant de partir, je vais quand même prendre quelques biscuits pour ne pas aligner des âneries quand je visiterai des églises en province. Donc il était bien content de recourir à la science de Mérimée, du premier inspecteur des monuments historiques, mais en même temps, il trouvait que c'était quelqu'un qui ne l'oubliait pas assez. Et quand ils ont voyagé ensemble à Rome, ça s'est mal passé. Je pense que Stendhal a assez mal su... pensait qu'il était le Français qui connaissait mieux les choses italiennes, et c'était la vie qu'avaient beaucoup de ses contemporains. Pour l'Italie, on voyait Stendhal, parce que c'était lui qui connaissait le mieux. Il a rencontré quelqu'un qui avait la prétention de s'y connaître aussi, presque autant, et sinon davantage que lui-même. Et je pense que ça a un peu refroidi son amour-propre. Mais ils ont communié quand même dans quelque chose d'essentiel, pour l'un pour l'autre, c'est la valorisation de la passion sudiste, l'Espagne pour Mérimée, l'Italie pour Stendhal, les patries d'adoption, où là le désir est sauvage, le désir est en liberté, les hommes sont entiers, comme on le dit, d'un cheval, d'un étalon, et donc la passion n'est pas bridée et anesthésiée par le code des convenances, le code de la vanité, qui est la passion dominante des Français. Et là, ils se rejoignaient alors au plus profond font un certain mépris pour la France, plutôt pour les Français ou ce qu'ils étaient devenus, c'est-à-dire après Napoléon, des pygmées dont le premier souci était surtout de savoir s'ils étaient bien convenables. Voilà. Donc en Italie, en Espagne, on ne se pose pas ce genre de questions. On va tout de suite jusqu'au bout de la manière la plus incandescente, quoi qu'ils doivent en coûter. Et ça, c'est magnifique. Et là, je pense qu'ils avaient un terrain d'entente extrêmement puissant.
Philippe Berthier, j'aimerais que vous nous parliez d'une couple, je dirais, au sujet de laquelle j'ai trouvé votre chapitre magnifique, c'est Léon-Paul Fargue et Valérie Larbeau. Eux aussi étaient extrêmement différents l'un de l'autre. De tempérament extrêmement différent.
Et puis aussi, je dirais même, déjà pour commencer, de milieu social. Larbeau, dont le père avait donné son nom à une rue de Vichy, était un personnage, un notable.
Voilà.
Était riche, était rentier, n'avait aucun problème matériel. Larbeau était un petit bourgeois qui a souvent...
Fargue.
Fargue était un petit bourgeois qui a souvent vivoté. Et c'est, bon, donc il y avait ce, dès le départ ce milieu différent. Puis alors le tempérament, quand même extrêmement différent. Fargue était un fantaisiste absolu, un farfelu presque au sens de Malraux, quelqu'un qui avait une imagination fantasque, une imagination débridée, qui avait une sorte de génie de la loufoquerie, une imagination toujours effervescente et surprenante, et qui, c'est qu'on est le piéton de Paris.
Voilà,
qui,
profondément parisien, ce que n'était pas du tout Larbaud.
Profondément parisien, alors que Larbaud est enraciné dans le bourbonnais profond. Et ensuite, alors le tempérament de Larbaud était très, très différent. Larbaud était un être réservé, un être, au fait, studieux, alors que Fargue est un paresseux intégral qui ne rendait jamais à temps les textes qu'on lui avait commandés, qu'il avait promis. C'était un calvaire de travailler avec lui. Quand on a fondé la revue Commerce, il s'est mis rapidement tout le monde à dos parce qu'il n'était absolument pas fiable. Alors que Larbaud, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, d'extrêmement posé et beaucoup plus introverti. Donc il y avait ces différences. Et pourtant, il y a eu pendant quelques années, ils se sont assez rapidement éloignés, sans jamais rompre, encore une fois, sans jamais rompre. Et il y a eu quand même quelques années très, très belles de la potassonnerie, c'est-à-dire dans le milieu gravitant autour d'Adrienne Monnier, etc. Donc ce milieu, Fargue avait inventé cette race fantôme de potassons qui étaient c'était à l'origine le nom d'un chien, et puis ensuite ça a fini par devenir celui d'une sorte de secte clandestine. Les potassons étaient répandus dans l'humanité, se reconnaissaient à quelques signes, c'était une société secrète, comme les fils de roi de Gobineau ou les Happy Few de Stendhal, c'est-à-dire des êtres d'élite qui avaient certains signes de reconnaissance, et donc qui permettaient de deviner qu'un tel était initié, était de la famille. Donc c'était un mythe rassemblant les êtres qui sans doute se faisaient une certaine idée de la littérature, on pourrait dire. Donc ça a été une sorte de canular très privé, ça a concerné quelques personnes, mais qui était une sorte de scie avec des plaisanteries sans cesse reprises, recommencées, très potache. Mais très jeune aussi, dans le meilleur sens du mot. Et ensuite, le lien, peu à peu, s'est distendu. D'abord parce que Larbaud, cosmopolite dans l'âme, voyageait énormément. Fargue était enraciné à Paris. Et puis, je crois que Larbaud a eu assez un peu de ce compagnon qui était sur lequel on ne pouvait pas vraiment compter. Ils se sont donné de très touchantes preuves d'affection. Mais au fond, il y avait là une sorte de divorce. Je dirais que la vie, cruellement, s'est chargée
de
les rapprocher à la fin. Je fais allusion évidemment à leur accident, à l'un et à l'autre. D'abord à Larbaud, ensuite à Fargue. Donc Larbaud terrassé en pleine rue. Fargue aussi, des années plus tard. Larbaud ne pouvant plus parler, etc. Et malgré tout, il y a cette phrase très touchante. Fargue écrit à Larbaud muet pendant des années et des années, lui disant « Je sais que tu penses à moi ». Voilà. Et c'est vrai, je pense.
Oui, je crois que c'est un des chapitres les plus émouvants de votre livre. Oui. Et donc, ces amis qui sont écrivains tous les deux parlent littérature. Que peuvent-ils s'apporter ? Est-ce qu'ils se font des remarques critiques très dures ? Est-ce qu'ils ne se font que des compliments ? Comment se soutiennent-ils ?
Alors, que des compliments, justement, non. Parce que, je dirais, le pacte impose justement un devoir. C'est un devoir Ils pratiquent la correction fraternelle, comme les moines. Donc, c'est un acte de charité un peu dur. Mais enfin, puisqu'on veut le bien de l'ami, on peut lui dire, écoute, ce que tu écris ne vaut rien, ne vaut pas tripette, c'est très médiocre. Donc, ça se voit très... Alors, évidemment, entre Georges Sand et Flaubert, ce n'est pas du tout le cas. Flaubert doit trouver les romans de Georges Sand assez... Raplapla, mais il ne se permettra jamais de lui dire. Et quant à George Sand, elle admire de très bonne foi ce qu'écrit Flaubert, mais bon, entre eux, ce n'est plus la question de se passer le moutarde ou le séné. Mais il y a un cas vraiment très beau. C'est le cas d'Alain Fournier et de Jacques Rivière, parce que ces jeunes gens, donc, d'emblée, se disent, voilà, nous prenons l'engagement l'un envers l'autre d'être au maximum de l'exigence. Donc, on se montre ce qu'on fait, on se confie sans aucune réserve ses préoccupations intellectuelles, et comme ils ont 18 ans, bon, ils commencent à écrire, à balbutier, donc l'un est le premier lecteur de l'autre est le plus difficile. Ce qu'il y a de magnifique dans leur cas, c'est que ça ne s'est jamais... Le niveau n'a jamais baissé. Mmh. C'est-à-dire, évidemment, on s'encourage. Hein, surtout qu'ils sont très différents l'un de l'autre. Jacques Rivière est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus philosophe. Jacques Rivière est beaucoup plus un intellectuel que Alain Fournier, qui dit que lui, il pense que son talent, c'est de rendre la vie dans sa palpitation, dans son épaisseur, dans sa note particulière, à partir d'éléments observés dans le réel. Donc c'est tout à fait
un romancier.
Voilà, c'est tout à fait différent. Tant que Jacques Rivière n'était pas un romancier, c'était un critique immensément clairvoyant, etc. Mais la fiction n'était pas son fort, sans doute. Et donc, ne jamais en rabattre de ce besoin d'être au plus aigu, hein, de l'exigence. Et je crois vraiment ce qui fait de la correspondance entre Alain Fournier et Jacques Rivière quelque chose de tout à fait unique, parce que on assiste au début, hein, de deux écrivains et qui cèdent, évidemment, parce que... Je crois que dire par principe, oh, j'ai reçu ce que tu m'as envoyé, c'est magnifique, etc. Oui. Bon, ça n'apporte absolument rien, ça n'aide en rien, ce n'est pas une preuve d'amitié. L'amitié peut être rude.
Et avez-vous constaté que les remarques que l'un fait à l'autre, la plupart des cas, sont justifiées?
Alors, c'est difficile à dire, mais je crois que, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle mérite d'être prise en considération. Donc, ça ne veut pas dire qu'Alain Fournier fait chorus et dit « oui, tu as raison, je vais changer ça, etc. et je vais aller dans le sens que tu m'indiques ». Non, non, pas du tout. La plupart du temps, il campe sur ses positions, mais il est poussé dans ses derniers tranchements et il est obligé d'expliquer à son ami pourquoi il fait comme ça. Et ça, c'est très fécond, évidemment, parce que on comprend beaucoup mieux ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Lorsque l'autre vous pousse un peu, vous met aux abois en disant « mais pourquoi tu as fait ça ? À quoi ça correspond ? Qu'est-ce que tu as voulu exactement ?» Bon, et ça, c'est sans prix d'avoir un œil comme ça. Qui ne souhaiterait l'avoir à ses côtés toujours pour accompagner et éclairer sa route, évidemment.
Alors Philippe Berthier, vous avez donc travaillé sur Barbey d'Aurevilly, qui est un romancier bien oublié, je pense.
Oh, écoutez, il y a eu quand même, grâce à Jacques Petit, dont j'aime à saluer la mémoire, qui a réédité Barbey dans la Pléiade, ça a été une date, dans les années 66, donc ça remonte quand même déjà assez loin. Barbey, les actions de Barbey ont considérablement monté à la bourse littéraire, parce qu'il y a eu un moment, effectivement, où vous avez un vieil excentrique.
Voilà.
On aurait dû peut-être se demander un peu plus pourquoi Baudelaire l'admirait.
Alors justement, je voulais en venir à cela. Évoquez-nous les liens entre Barbey et Baudelaire et la façon dont Barbey a analysé la personnalité et l'œuvre de Baudelaire.
Écoutez, il s'appelait... évidemment, penser qu'a priori peu de choses semblaient les destiner l'un à l'autre. En quoi Baudelaire pouvait-il s'intéresser aux paladins catholiques, ultra-catholiques, monarchistes, etc. Bon, mais en même temps, ils avaient, il ne faut pas oublier, l'importance séminale qu'a eu pour Baudelaire la lecture de Joseph de Maistre, par exemple. Or, Barbet avait consacré un important essai à Joseph de Maistre dans Les prophètes du passé. D'autre part, les préoccupations spirituelles de Baudelaire, son sens du péché, son sens de la déchéance, son appel à la pureté, etc., pouvait trouver en Barbet un terrain tout à fait préparé. Parce que de quoi parle Barbet dans Les Diaboliques, par exemple? Bon, il parle justement... Pour lui, Satan œuvre dans le monde, c'est pas une légende. Et le problème du mal, fleur du mal, le titre avait tout pour plaire à Barbet. Que le mal puisse sécréter des fleurs, oui, mais il n'en reste pas moins le mal. Alors, il a, au moment de la publication du recueil de Baudelaire en 1857, quand tout le monde s'est déchaîné contre Baudelaire, chose tout à fait inattendue pour beaucoup, mais qui avait sa logique profonde, un des très très rares, sinon le seul à se mobiliser, à prendre des risques. On sait par des lettres inédites de l'année 1857 que j'ai eu la bonne fortune de publier récemment, que Barbet est même allé au procès, assister à l'audience, parce qu'il parle de la plaidoirie de la défense qu'il a trouvée absolument minable de Baudelaire. Donc il se met au service de Baudelaire, il le défend et il écrit un article absolument stupéfiant qu'on n'attendait sûrement pas sous sa plume, où il dit que c'est un grand livre de spiritualité, que c'est un drame, c'est la lutte du bien contre le mal, de la nuit contre la lumière, que c'est absolument bouleversant d'authenticité spirituelle. Et l'article se termine par la phrase célèbre qu'il reprendra en 1884 textuellement pour À rebours de Huysmans. Après un pareil livre, l'auteur doit choisir soit les pieds du crucifix, soit la bouche de pistolet. Entre le crucifix et le pistolet. Il est dans une impasse, il est acculé, se convertir ou se suicider. Il dira exactement la même chose pour Huysmans. Bon, c'était très fort. Bon, Baudelaire, Dieu merci, n'a fait ni l'un ni l'autre. Bon, il a continué à vivre et on en est heureux. Mais on veut dire quand même que Barbet avait saisi vraiment les enjeux profonds. Et dans les diaboliques sont souvent un livre baudelairien, n'est-ce pas, avec jusqu'y compris une tendance vers Sade. Les gens du parti de Barbet, les réactionnaires et les monarchistes, le considéraient comme une sorte de fou. On disait qu'il introduisait le marquis de Sade dans la sacristie. Bon, mais parce
la
que pour lui,
est belle.
Mais oui, mais. C'est vrai, c'est-à-dire que le chrétien est quelqu'un qui a le sens du mal. Et Barbet disait, quand on veut peindre à cru et à nu l'âme humaine, il faut chausser des bottes, des gouttiers, parce qu'on est en plein cloaque. Et donc c'est le cloaque, c'est le cœur humain. Enfin, il était dans la lignée de Pascal, lorsque Pascal parle du cœur plein d'ordures. Formule extraordinaire et d'une violence inouïe, Barbet ne fait que les reprendre. Donc, il a une théorie qu'il a énoncée dans la préface à son roman « Un prêtre marié ». Déjà, le titre avait tout pour choquer, il voulait choquer, où il dit que l'écrivain catholique, l'artiste catholique doit être large. Or, il doit embrasser sans trembler le cœur humain dans tous ses aspects, y compris les plus sales et les plus répugnants, les plus honteux. Voilà. Et qu'il faut racheter tout ça et le prendre en tout cas dans ses bras. Bon. Donc, il déplorait qu'à son époque, au XIXe siècle, la littérature catholique soit une littérature châtrée, une littérature de tisane, enfin de chaisière, une littérature fade, vraiment.
Ça n'était pas son cas, c'est sûr.
Alors lui, au contraire, évidemment, c'était toujours plus épicée. C'était une littérature qui se voulait incendiaire, parce que pour lui... Alors moi, j'ai toujours pensé, je sais que cet avis n'est pas partagé par certains de mes collègues, mais j'ai toujours pensé à la sincérité de la foi chrétienne de Barbet. Je prends cette théorie au sérieux. Certains disent, oh, c'est du camouflage opportuniste pour faire passer des choses inacceptables. Je ne le crois pas. Je ne crois pas du tout. Je crois qu'il croyait, il avait sondé les reins et les cœurs, d'ailleurs, en commençant par lui-même, et puis ensuite, dans ses fictions, il met en scène des personnages qui vont jusqu'au bout. Écrire, par exemple, une nouvelle intitulée « Le bonheur dans le crime », en montrant un couple absolument criminel qui jouit d'un bonheur insolent tout au long de sa vie, qui n'est pas puni. Il y avait de quoi, c'est évidemment une pierre de scandale, mais il faut le comprendre, il n'y a rien de plus chrétien, le mal triomphe insolemment, parce que le royaume n'est pas de ce monde.
Voilà, exactement.
Voilà. Mais voilà.
Et quand vous dites que peu de gens comprenaient cette vision de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, il y a un autre grand catholique qui a compris Baudelaire aussi et qui en a parlé avec amitié, c'est Louis Veuillot.
Oui, alors là, je vous demande d'en m'en dire plus, parce que je confesse une coupable ignorance de Veuillot.
Veuillot a toujours soutenu Baudelaire.
C'est vrai, je l'ignorais.
Il est d'ailleurs allé, c'était un des rares à suivre son cercueil jour de l'enterrement.
Je ne l'aurais pas cru, quoi on est victime d'idées toutes faites.
Donc, mais je pense que Louis Veuillot avait justement... cette vision catholique du catholicisme de Baudelaire, si je puis dire.
Oui, absolument.
Alors, Philippe Berthier, vous êtes passionnant. J'aimerais avoir des heures pour vous écouter, mais j'engage les auditeurs à se ruer sur votre livre, parce que c'est vraiment un livre qui m'a fait passer des moments excellents et qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. C'est donc de Philippe Berthier, Amitié d'écrivain, au pluriel, entre gens du métier chez Honoré Champion. Vraiment, chers auditeurs, vous ne regretterez pas votre achat. Et vous aurez une lecture qui vous ravira. Il nous reste combien de temps, Arnaud ? 2 minutes. Philippe Berthier, pouvez-vous nous parler de ces fameux 17 feuillets de Proust qui viennent d'être édités chez Gallimard?
C'est pas 17, c'est 75.
75, pardon.
Ce sont des feuillets. Dans un sens, c'est le contraire d'une découverte. On en connaît l'existence depuis toujours. C'était des feuillets qui avaient été confiés par Suzy Mante Proust, la nièce de Proust, à Bernard de Fallois
Tout le reste.
Voilà.
Elle avait confié des cartons entiers.
Bernard de Fallois, qui a été le premier éditeur du Contre Sainte-Beuve, etc. Et donc, lors du récent décès de Bernard de Fallois, ses papiers ont été donnés, sans doute c'était sa disposition testamentaire, à la Bibliothèque nationale de France. Alors, la petite tribu proustienne est en transe, parce que, en fait, ces feuilles, on en connaissait l'existence, mais nul...
Par
ne...
Bernard de Fallois, d'ailleurs, qui avait fait allusion dans la préface, je crois, du Contre Sainte-Beuve.
Tout à fait. Oui. Mais personne ne les avait tenus en main. Donc maintenant, ils ont fait l'objet d'une étude archi-scientifique, et bien sûr... Bon, donc il paraît... Alors, il faut être proustissime pour trouver que sur de minuscules détails, ça apporte des choses qu'on ne connaissait pas, ou ça confirme des hypothèses. Enfin, ça intéresse les spécialistes les plus pointus.
Parfait.
Mais quand il s'agit de Proust, rien n'est indifférent.
Merci beaucoup, Philippe Berthier. Au revoir, chers auditeurs, et dans un mois, si vous le voulez bien, dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre Voix au chapitre dirigée par Anne Le Pape, diffusée en direct sur Radio Courtoisie mercredi 9 juin 2021 de 10h30 à 11h30 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pourrons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.